Vous êtes sur RTL.
30.
RTL. Le journal inattendu de Joey Starr. Avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. À mes côtés aujourd'hui, un bad boy devenu mainstream. Il fut tête de file du rap français, il fait sa mue et s'est transformé en artiste tout terrain, acteur, producteur, écrivain et metteur en scène. Bonjour Joey Starr.
Bonjour.
Vous êtes ici entre autres pour parler de la pièce « Cette petite musique que personne n'entend » que vous avez mise en scène et qui est écrite et jouée au Théâtre des Mathurins par Clarisse Fontaine. Est-ce que vous prenez plaisir à être là où on ne vous attend pas ?
Bah, je ne fais pas exprès, surtout. C'est pas moi, c'est mon corps qui désire ça, en fait. Je fais les choses à l'instant. Ça me donne l'impression d'être libre. Voilà. Donc, puis surtout, je parle pour Clarisse, mais j'ai plein de doudingues qui convergent sur moi avec le temps et qui me proposent des choses. Voilà, je développe ma fibre artistique par le biais de ça, quoi.
Eh bien, on va en parler. On a une heure pour ça en direct avec les auditeurs d'RTL. Joey Starr, c'est l'heure des informations. Je vais vous inviter à les commenter avec moi tout de suite, le journal.
Je vais commenter les informations.
Dans l'actualité aujourd'hui, l'ONU alerte sur la famine à Gaza qui touche désormais la quasi-totalité de la population. Vous entendrez un médecin urgentiste humanitaire qui rentre de Gaza. Il décrit une situation alarmante. Une marche blanche en Ille-et-Vilaine pour un jeune père de famille tué à coups de batte de baseball pour un simple coup de klaxon. Le salon de l'agriculture, avant-dernier jour pour en profiter. Nous y retrouverons nos envoyés spéciaux qui nous feront notamment goûter le légume de saison, l'asperge. Du football, zéro partout entre Monaco et le PSG hier soir. Kylian Mbappé est sorti à la mi-temps. Mais que se passe-t-il entre l'entraîneur et l'attaquant star ? La réponse. Le chassé-croisé des vacances. Attention, sur la route, près de 450 km de bouchons dans toute la France. En particulier sur l'A43 entre Lyon et Albertville, aux abords des stations de ski évidemment. L'A40 est encombrée aussi à partir de Bourg-en-Bresse en direction de Genève. La journée, rappelons-le, est classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Puisque c'est un week-end de chassé-croisé entre les deux zones, encore en vacances scolaires. Et puis en région parisienne, vous risquez aussi d'appuyer sur la pédale de frein entre la 6 et la 86. Mais tout devrait se calmer d'ici la fin de journée. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Et c'est humide.
Ouais, c'est vrai, on a encore une dégradation qui va traverser le pays. Pour l'instant, on a de grosses pluies, principalement entre la Gironde, la Charente-Maritime, le Poitou et la Touraine. Des pluies qui remontent vers les Hauts-de-France. Ça va être le cas une grande partie de la journée avant qu'elles ne se dirigent vers l'est et vers le sud. Et là, on va rencontrer des problèmes avec de la neige, probablement à basse altitude la nuit prochaine. Mais pendant ce temps-là, à l'arrière, Normandie et Bretagne profitent d'un temps ensoleillé. 9 degrés à Cherbourg cet après-midi, 10 à Paris, 11 à Lille, 14 à Besançon et à Lyon, 16 à Toulouse, 17 pour Marseille.
Merci beaucoup Valérie.
Le journal inattendu.
Joey Starr, Nathalie Renoux.
Les appels au cessez-le-feu à Gaza se font de plus en plus pressants. Le drame de jeudi dernier a choqué la communauté internationale. Plus d'une centaine de personnes sont mortes alors qu'elles se précipitaient vers un camion de distribution d'aide alimentaire. Des soldats israéliens, se sentant menacés, auraient alors tiré sur la foule. L'ONU alerte sur une famine massive dans la bande de Gaza. Un médecin urgentiste qui revient d'une mission sur place témoigne d'une situation catastrophique.
C'est bien la première fois que j'assiste à une telle situation à travers cette foule qui est complètement désœuvrée, qui passe toute sa journée à essayer de trouver de l'eau, à essayer de trouver de la nourriture. Dès que la nourriture arrive, parce qu'ils n'ont aucun argent, bien évidemment, ils avaient de l'argent dans leur compte en banque, mais tout est fermé, ils se retrouvent dépouillés. C'est vraiment une situation de catastrophe humanitaire comme je n'ai jamais vu.
Docteur, il y a un médecin d'une ONG qui racontait hier dans RTL Midi qu'on en est sur place à tuer, à manger les ânes et qu'on mélange les graines d'oiseaux à l'alimentation.
Tout à fait, et même on a même évoqué maintenant qu'ils pouvaient éventuellement manger les rats, etc. Il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas dire demain que nous ne savions pas. Nous assistons à un massacre d'une population, à une volonté délibérée de mettre cette population dans cette situation de violence extrême. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Et ce que je constate, c'est que personne ne fait exactement ce qu'il faudrait faire à l'intérieur de Gaza.
C'était au micro de Stéphane Carpentier dans la matinale d'RTL ce matin. Joe Star, quand vous entendez les propos de ce médecin urgentiste qui revient de Gaza, est-ce que ça vous fait réagir ?
Ben ouais, plutôt. Ouais. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Voilà, on atteint des sommets dans la barbarie là. Enfin, moi, j'ai une posture un peu particulière. Je viens des Antilles, mes deux parents sont martiniquais. Dès que j'entends colonisation, déjà, qui existe encore aux Antilles, direct, je crunch, parce que, voilà, donc ça. Et puis, moi, voilà, la résultante des échanges entre. Il y a eu un acte de barbarie, et puis la réponse à ça est pas meilleure, quoi, oui. Malheureusement, quoi. Et c'est toujours les civils qui souffrent, voilà. Et on est là, on parle beaucoup, mais effectivement, on fait pas grand-chose, quoi, nous.
Alors justement, Joe Biden, sachez-le, a annoncé que les États-Unis allaient participer à des largages d'aide humanitaire dans les prochains jours sur la bande de Gaza. Oui,
enfin, c'est quand même eux qui mettent leur veto à chaque fois, en même temps, pour pas que la situation bouge, quoi. Alors qu'ils pourraient influer sur ce qui se passe largement, quoi.
Peut-être que les choses vont finir par bouger, espérons-le.
Ah oui, on dit ça toutes les semaines, quoi. Malheureusement, les gens sont sur le terrain et ils ne sont pas, d'après ce qu'on voit.
Oui, d'après ce qu'on a entendu, effectivement, à l'instant. Selon le Hamas, le dernier bilan fait état de 30 320 morts dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Par ailleurs, trois combattants du Hezbollah ont été tués dans le sud du Liban ce matin par une frappe de drone israélienne. En Russie, la mère d'Alexei Navalny, principal détracteur de Vladimir Poutine, qui, vous le savez, est mort dans des circonstances troubles, s'est rendue ce matin sur sa tombe. C'est au lendemain des obsèques de cet opposant, obsèques auxquelles ont participé des milliers de Russes qui lui ont rendu hommage. Une matinée chargée en émotions à Saint-Urial en Ille-et-Vilaine. Une marche blanche était organisée en mémoire d'Anthony. Ce jeune père de famille a été tué à coups de batte de baseball il y a 6 jours. Une mort ultra-violente, a priori pour un simple coup de klaxon. Deux frères sont mis en examen et incarcérés. Nicolas Bobby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place. La famille avait appelé au silence et au respect.
Et la dignité a été respectée. La maman en pleurs portait un t-shirt blanc avec l'inscription « À mon fils adoré, je t'aime ». Anthony était très apprécié ici. Des centaines de personnes arboraient une photo du jeune père de famille comme Jonathan, un proche.
C'est terrible, c'est atroce. Moi, je suis un ami d'Anthony. Ce qui s'est passé, c'est ignoble. C'est des grands malades, ces mecs-là. J'ai déjà eu des problèmes en voiture avec, des gestes mal placés, c'est des agressifs, c'est des grands malades, quoi. J'espère que la justice sera bien faite et qu'ils vont prendre cher, quoi.
Des roses blanches ont été déposées sur les lieux du drame. La foule a défilé derrière la banderole. Anthony, on ne t'oubliera jamais, que justice soit faite.
Par solidarité pour la famille, quoi. Et puis pour que ça recommence pas, quoi.
La violence était souvent dans les villes, pas arrivée dans les petites communes de 2000 habitants, quoi.
La maman était soutenue par un homme au visage tuméfié, un homme qui a survécu à l'agression. Le collectif s'est exprimé à l'issue de cette marche blanche.
Gwenaëlle et Cassandra vous remercient de nouveau d'être là ce matin. Nous rappelons que les obsèques d'Anthony auront lieu lundi.
Le jeune homme attendait la naissance de son deuxième enfant, prévu dans quelques jours, sa veuve à 29 ans.
Merci Nicolas Bobby en direct de Saint-Urial. Dans un instant, nous nous rendrons au Salon de l'agriculture à la veille de la fermeture de cette 60e édition. A tout de suite, restez avec nous, c'est le journal inattendu de Joe Star.
Le journal inattendu.
Joe Star, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Joe Star et Nathalie Renaud.
Le 60e salon de l'agriculture fermera ses portes demain. Un salon qui se termine plus sereinement qu'il n'a commencé. Des violences avaient émaillé la première matinée samedi dernier. Nous y étions en direct. Depuis, des annonces ont été faites, des compromis trouvés. Le dernier en date hier, Lactalis et ses fournisseurs se sont entendus sur le prix du lait pour le premier trimestre de l'année. Le salon a retrouvé un visage un peu plus festif. Et la plus grande ferme de France a reçu la visite de celle qui est devenue une égérie du monde agricole, Karine Le Marchand. Nathan Bocard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi la présentatrice de L'Amour est dans le Pré ce matin et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était attendue sur place.
Oui, la première étape pour la star de la télé, c'était la MSA, la Sécurité sociale pour les agriculteurs. L'occasion d'aborder le sujet de leur souffrance psychologique.
Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas une prise en charge psychologique. La téléconsultation fait des miracles. Ce serait extraordinaire que vous puissiez prendre en charge ça.
On la prend en charge quand même depuis de nombreuses années. Il y a la ligne à agri-écoute d'appel d'urgence.
Autre sujet cher à Karine Lemarchand, l'accompagnement des femmes agricultrices.
Elles me disent que quand notre enfant est malade, on a le choix entre l'emmener avec 42 fièvres à la traite ou le laisser tout seul dans le lit pour aller faire la traite. Et ça, c'est pas normal.
C'est quelque chose qu'on veut prendre en compte.
Et après une discussion animée mais cordiale...
Merci beaucoup. Au revoir.
L'animatrice entame une tournée des syndicats, notamment sur le stand de la FNSEA où l'accueil est très chaleureux.
Vous êtes à nos côtés et on l'a vu même sur les barrages. Ouais. Et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur.
Je sens que c'est le moment où il ne faut pas lâcher, en tout cas. Il ne faut surtout pas croire aux promesses tant qu'elles ne sont pas tenues. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit aux paroles, c'est comme en amour.
Voilà, on l'entend, la bonne entente entre Karine Lemarchand et les syndicats. Elle est désormais face à une foule impressionnante de visiteurs sur le stand M6. Elle va y recevoir producteurs et exposants, et notamment l'éleveur de la vache égérie du salon, Oreillette. Éleveur dont, pour l'anecdote, l'épouse est une très grande fan de L'Amour est dans le pré.
Évidemment, merci beaucoup Nathan Bocard en direct du Salon de l'Agriculture. Le salon, c'est bien sûr le lieu où l'on trouve tous les produits du terroir français, ses centaines de fromages, ses fruits et légumes. Joe Estar, je sais que vous êtes un fin cuisinier. Vous devez le savoir, c'est le début de la saison des asperges. Un producteur des Landes en parle avec des trémolos dans la voix.
On a commencé les premières asperges depuis 10 jours, malgré le temps pluvieux qu'on a eu ce week-end. Mais on progresse et l'intérêt, c'est d'avoir quand même bien de l'asperge pour Pâques. C'est le premier légume de printemps, donc effectivement, les consommateurs l'attendent. Donc là, maintenant, on va augmenter nos volumes. Mais dans les étals, on va avoir de l'asperge dès la semaine prochaine. Ça va commencer à progresser. Je trouve qu'elles sont très sucrées. Alors, moi, je la préfère, avec des copains, à la plancha. Donc on l'a fait dorer sur la plancha sur de l'huile d'olive avec un petit peu quelques épices. C'est magnifique. On les fait juste retourner pour les faire dorer. Alors les copains pour l'apéro, les voisins, ils savent venir quand il faut. Et je ne veux pas être chauvin, mais on a les meilleures asperges dans notre département des Landes.
L'asperge, ça vous inspire ?
L'asperge me parle, oui. Les Landes aussi. J'en reviens là. J'ai été tourner un truc pendant 3 mois. Oui, plutôt, ouais.
Bon, l'asperge, vous la faites à la plancha ou autrement ?
Je n'ai pas de plancha chez moi, malheureusement, mais donc je la fais autrement.
Ok, vous nous donnerez votre recette avant la fin de cette émission.
Non.
Du sport. Bon, ok, pas les secrets culinaires de Joe Estar. La 24e journée de Ligue 1 a commencé par un nul 0 partout entre Monaco et Paris. Mais de ce match, on retiendra surtout la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps. Pas parce que l'attaquant parisien était blessé, non. Pas pour le préserver pour le match de Ligue des Champions mardi face à la Real Sociedad, non. C'était un choix de l'entraîneur Luis Enrique. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Mais est-ce que le divorce est acté entre Enrique et Mbappé ?
Alors, il est surtout acté entre le PSG et Mbappé. Vous imaginez sans mal que l'entraîneur parisien, tout Luis Enrique qu'il soit, ne pourrait en aucun cas prendre une décision si radicale sans l'aval de sa direction. Mbappé paye en effet très clairement son choix. En signifiant son souhait de quitter le club plus de 4 mois avant la fin de saison, il a envoyé un message planétaire de communication dans lequel on associe plus son nom à celui de son actuel employeur. Et ça, pour le Qatar, dont on connaît la fierté, c'est un véritable affront. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir s'il va en être mardi prochain de même en Ligue des Champions face à la Real Sociedad avec l'enjeu de la qualification en quart de finale, parce que c'est une chose de sortir le joueur star en championnat quand Paris a plus de 10 points d'avance sur le second, c'en est une autre de le faire dans la compétition reine avec le risque de compromettre toute la fin de saison. Une chose est certaine, les derniers mois de cohabitation entre Kylian Mbappé et le club de la capitale s'annoncent très tendus, voire même peut-être conflictuels.
Mais il était souriant pourtant, Kylian Mbappé, il reste zen lui.
Oui, il a aussi des enjeux de communication personnelle à faire passer. Il doit montrer qu'il reste fort. C'est un bras de fer de communication. Mais c'est vraiment mardi qu'on va savoir où en est la relation entre les deux parties.
Joe Estar, vous êtes un supporter historique du PSG.
Bah, je suis parisien, oui.
Ah oui, vous en pensez quoi de tout ça, là ?
Bah, je pense que, à mon avis, mardi sera là. C'est un compétiteur, le gars. Donc tous les autres enjeux, à mon avis, vont s'effacer, je pense. Après, qui suis-je ? En ce moment, j'avoue, je ne suis pas trop parce que je carbure pas mal, mais ça me paraît évident.
Vous pensez qu'il jouera tout le match contre la Real Sociedad, Philippe ?
Je ne suis pas dans les petits papiers de Luis Enrique, mais c'est vrai que les enjeux sont extrêmement importants. Après, il y a aussi une question financière derrière tout ça. Mbappé, quand il ne joue pas, il ne marque pas de but. Quand il ne marque pas de but, il ne touche pas certaines primes. Et puis, surtout,
voilà.
Il ne va pas chercher des records et la chasse
tout
au Ballon d'Or.
Tout est dit.
Aïe, 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 aïe. Voilà. Que d'enjeux,
Oui, le plus souvent, oui.
La 24e journée, merci beaucoup Philippe. La 24e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec Reims-Lille à 17h et Clermont-Marseille à 21h. L'OM, qui était en crise, vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée avec son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Une bonne série à confirmer, peut-être ce soir. Et puis, la saison de Formule 1 commence ce soir, cet après-midi, 16h. C'est le pilote Red Bull, Max Verstappen, qui partira en pôle à Bahreïn devant Charles Leclerc sur Ferrari. Un Grand Prix le samedi, c'est inhabituel. Ce sera le cas aussi le week-end prochain en Arabie Saoudite afin de s'adapter au Ramadan qui commencera dimanche 10 mars. Voilà pour les informations.
Le journal inattendu de Joe Star
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Joe Star, c'est maintenant l'heure de votre portrait.
Ah.
Je m'appelle Joe Star. Je suis un jaguar, un animal sauvage, insaisissable, puissant, violent. Cette rage de petit garçon blessé, je la balance dans le breakdance, le graphe, le rap. J'y mets la colère de la rue, ces mots en mots. Années 90, Nique ta mère peint sur les murs, NTM avec Cool Chain sur scène.
C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils.
Je suis l'infréquentable, le provocateur génial, bête de scène, voix sans compromis, indomptable jusque dans ma vie, rageux, point levé, souvent condamné. Mais parfois, le temps adoucit. Le jaguar se laisse apprivoiser. Niquer la police, c'était il y a longtemps. La police, je l'incarne maintenant au cinéma. Merci Maïwenn.
On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi, ça reste, quoi. C'est ça me tord, quoi. Je peux pas.
Je suis Didier Morville, le petit Didier. Un livre comme une confession sur ce petit garçon, mal aimé, violenté, brasier, fumant, sur lequel il a fallu bâtir un homme. Après la rébellion, l'acceptation, je crachais sur le système, maintenant j'en fais partie. Je joue dans des comédies, dans des séries, sur TF1, le remplaçant.
Je suis pas là pour vous frustrer ou vous censurer. Alors, vous pouvez me critiquer.
Genre.
Je dirais rien.
Vous avez trop pris la confiance avec nous.
Pas besoin d'être amoureux de la principale, mais trop belle fille.
Vous prenez vos affaires et vous bossez maintenant.
Mais remplaçant, je ne le serai jamais vraiment. Moi, Joe Star, metteur en scène, acteur, rappeur, graffeur, à la gueule de Métèque, même à Sagi, je suis toujours un cri.
Avec ma gueule de Métèque, parrainage de l'air, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous, je serai franc, franc au possible.
Est-ce que ça vous va, ce portrait, Joe Star?
Ouais, j'aurais remplacé violent par virulent, enfin, il y a 2-3 trucs, je me suis fait happer par le système, mais je le prends bien. Je n'ai pas forcément accepté. Tac, il y avait 2-3. Voilà, mais...
Bon, ok. J'ai fait des petites erreurs.
Je suis même pas sûr que ce soit de moi qu'on parle, en fait. voilà. Chaque fois, quand il y a tout ça, j'ai envie de me jeter en boule par terre. Donc voilà.
C'est pas vrai. Mince. C'était pas.
Sinon, ça me va. Hein.
Je dis que vous êtes assagi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le temps assagi?
Bah, le temps assagi. Enfin. On a de la distance. On prend de la distance. Apaise. Assagi, je sais pas, mais apaise, ouais. Enfin, je sais que tout ce que j'entreprends aujourd'hui, je l'entreprends de manière plus apaisée. Avec Clarisse Fontaine, quand on a. Enfin, elle est venue me voir pour monter cette pièce. En fait, on n'a jamais eu de. On n'a jamais eu de fric. Enfin, avec NTM, on se découvrait notre fibre artistique, on découvrait ce qu'était que l'industrie, et ainsi de suite. Donc, c'était jamais simple, et surtout parce que on comprenait pas tout le temps ce qu'on faisait là. Aujourd'hui, j'ai un peu mieux accepté tout ça, donc forcément, ça se passe autrement.
Alors justement, vous parlez de Clarisse Fontaine, qui a écrit et qui interprète une pièce qui s'appelle « Cette petite musique que personne n'entend ». C'est au Théâtre des Mathurins. Comment vous a-t-elle choisi pour la mettre en scène? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Restez avec nous.
Le journal inattendu de Joe Star avec Nathalie Renoux sur RTL.
Le journal inattendu de Joe Star
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Votre actualité, Joe Star, c'est une pièce de théâtre que vous avez mise en scène, pièce écrite et jouée par Clarisse Fontaine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Cette pièce s'appelle « Cette petite musique que personne n'entend ». Elle parle des violences conjugales. Bonjour Clarisse Fontaine.
Bonjour. Oui, ça parle des violences conjugales et pas seulement des violences faites aux femmes en général, j'ai envie de dire aussi, toute cette société par ces petits riens qui vient aussi accabler les femmes.
Comment est-ce que vous avez choisi Joëstar pour la mettre en scène, cette pièce de théâtre ?
Ça a été une idée qui m'a été soumise et ça a été une évidence artistique, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu besoin d'expliquer à Joëstar les mots, le sens des mots. Il les a tout de suite saisis. Il n'a pas cherché à déformer là où je voulais aller, surtout pas. Il n'a pas cherché à cacher le fond du problème. Et puis il a su mettre en valeur tout ça. Il a su déconstruire aussi pour reconstruire et force de proposition surtout, c'est ce qui était intéressant.
Est-ce que ça vous a étonné qu'elle vienne vous chercher ?
Oui, plutôt, ouais. Ça m'a étonné parce que je lui ai dit, moi je suis pas metteur en scène, je sais pas faire ça, puis je venais de rencontrer le théâtre il y a pas très longtemps en fait. Et puis après, en lisant en fait sa proposition... Je me suis trouvé plein de points communs avec ce que ça disait là où ça allait, quoi, cette espèce de face à face avec le monde, avec nos contemporains. Je me suis retrouvé, donc c'est ce qui m'a parlé. Et puis après j'ai demandé à la dame, alors que je ne la connaissais pas, écoute, fais-moi une petite lecture comme ça, parce que comme il était dit tout de suite que elle l'a écrit et qu'elle veut l'interpréter, voir comme on se connaissait pas, vas-y quoi. Et puis comme je sais qu'en général j'ai un rapport avec mes contemporains assez ambigu, elle n'a pas minaudé, elle m'a fait sa lecture chez moi dans mon salon comme ça, on a poussé les meubles, tac, et de là on est parti en fait. Je me suis pas posé de questions, j'ai fait les choses à l'instinct avec elle et on a appris à se connaître avec cette création.
Voilà, ouais, c'était une création artistique, vraiment. Et puis le propos était plus grand que nous aussi. Voilà, ça nous a dépassés, et tant mieux.
Et je pourrais même dire que grâce à elle, je suis sur ma deuxième mise en scène de théâtre. Elle m'a mis le pied à l'étrier.
Donc c'est grâce à elle que vous êtes rentré dans
le jeu. Je ne sais pas si je suis metteur en scène à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis sur une deuxième mise en scène qui a commencé à Lille, qui s'appelle Black Label
ouais.
Voilà, et qui va tourner prochainement. Donc je fais la mise en scène avec David Bobet, je joue aussi. Donc merci.
Merci Clarisse. J'ai quand même une question. Joëstar, vous avez été condamné pour des violences conjugales. Mm-hmm. Cette pièce parle de violences faites aux femmes. Ça vous a effleuré l'esprit, Clarisse Fontaine ?
Alors, il y avait quelque chose d'antinomique au début, et ça fait grandement débat, en fait. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont complètement réfractaires à l'idée de venir pour cette raison. Et en fait, c'est très simple. J'ai observé comment Didier en parlait, en fait. Et Didier est quelqu'un qui prône l'évolution, le fait d'aller vers quelque chose de mieux, de faire avancer la société, sur ce point aussi, en particulier. Et en fait, ça m'a ouvert une porte à moi, en tant qu'ancienne victime. Je me suis dit que voilà, c'était à la société, dans son entièreté, d'avancer ensemble. On ne devait pas diviser les gens, pas mettre de catégories les uns contre les autres. Non, il faut avancer ensemble, faire ce chemin. Et voilà, ça m'a ouvert une porte. Je me suis dit que ça allait en ouvrir une à d'autres. Et je l'espère, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut venir. Et je suis certaine que les gens adhéreront à partir du moment où ils viennent.
Puis moi, je fais face à mes erreurs. Moi qui suis encore à 56 ans en construction, à l'époque, je l'étais encore plus. Donc voilà, et puis je sais de quoi je parle, en fait. Et puis on a opposé ça. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on a réussi à faire une création, entre guillemets, un spectacle, justement, de ça, en fait. Voilà quoi. On sait de quoi on parle tous les deux, en fait.
La violence faite aux femmes, l'emprise, on en entend beaucoup parler. Vous avez évidemment entendu le cri aussi de Judith Godrèche qui a lancé ce MeToo du cinéma français. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'il était temps que la parole des femmes se libère ? Je vous pose la question à tous.
Il était plus que temps. Effectivement, MeToo a permis de libérer la parole, a permis d'ouvrir le dialogue. Après, moi aussi, dans cette pièce que je prône, c'est aussi un savoir-vivre ensemble et de retrouver maintenant quelque chose, une situation où on avance ensemble sans avoir des propos extrêmes contre les hommes. Effectivement, on disait justement qu'il y a une évolution possible chez les auteurs de violences conjugales. Il y a aussi ces personnes qui sont perverses. Et celles-ci, effectivement, elles ne changent pas. Donc, parce que je rejoins les femmes qui me disent « Oui, mais certains ne changeront pas. » Effectivement. Voilà.
Joëstar, est-ce que les hommes ont un rôle à jouer dans le combat que mènent les femmes ?
C'est quand même nous qui... C'est le patriarcat qui a mis en place cette situation-là, donc effectivement, on a un rôle à jouer, quoi. Et puis, Moi, je prône l'équité, l'égalité, mais réelle. Donc, effectivement, s'il faut, si c'est par ce bout de la lorgnette qu'il faut que ça arrive, ouais, mais il faut que ce soit mis en place au plus vite, quoi. Ça se fera pas simplement, donc voilà.
Eh bien, ce spectacle, ce seul en scène, y participe. Cette petite musique que personne n'entend, au Théâtre des Mathurins, vendredi prochain, puis le vendredi suivant.
Voilà, c'est le 15, 29 mars, 12 avril, et plus si
affinité. Puis vous êtes aussi dans des théâtres
voilà,
en région.
Voilà, à Épinal aussi, cette semaine, le 6. Voilà, autour de cette journée de la femme, le 8, là, qui arrive, c'est le moment de relancer tout ce débat. Et puis, c'est l'idée, autour de ce spectacle, c'est vraiment d'ouvrir la discussion.
Eh bien, on souhaite longue vie à ce spectacle. Merci beaucoup,
Marie-Fontaine,
d'être venue sur le plateau d'RTL. Joe Star, on revient à votre journal inattendu, à vos choix musicaux. Vous avez fait ce choix pour l'émission. Buddy Miles.
Ouais.
Pourquoi ?
C'est une reprise de Neil Young. Parce que quand je serai grand, j'aimerais remettre le slow au goût du jour. Non, puis j'aime tout ce qui croune en fait, ça me parle beaucoup. Voilà, j'aime le slow-mo, voilà, ce morceau me met dans une humeur particulière et jamais de la même manière en plus. Donc voilà.
Allez, on va continuer à l'écouter pour nous mettre tous ensemble dans cette humeur. Dans un instant, les titres de 13h.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Joey Star et Nathalie. RTL.
Il est 13h, passé de 1 minute.
Le journal inattendu de Joey Star.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
Et à la une aujourd'hui, le dernier week-end pour le 60e Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes demain. Il se termine plus calmement qu'il n'a commencé. Karine Le Marchand, très aimée du monde agricole, passe la journée au Salon. Elle sera à 18h l'invitée du journal de Vincent Parisot. L'appel de l'ONU sur la famine à Gaza. Au moins 500 000 personnes sont menacées selon les associations humanitaires. Le football, 24e journée de Ligue 1 après le match nul 0 partout du PSG à Monaco hier soir, suite 7 après-midi. À 17h, Reims reçoit Lille et à 21h, Clermont accueille l'Olympique de Marseille. En Formule 1, premier Grand Prix de la saison, c'est cet après-midi à Bahreïn, départ à 16h. La météo, c'est avec vous, je dois le savoir, mais on ne vous a pas apporté la météo, mince. Eh bien écoutez, je n'ai pas la météo sous la main, elle va arriver. Alors on va
faire
en attendant.
Je vais être Miss Météo aujourd'hui, c'est ça ?
Ouais, vous allez être notre Miss Météo, mais attendez, comme ah ben si, elle arrive, voilà. Donc, parce que c'est la tradition du journal inattendu.
D'accord.
L'invité donne la météo et ça lui donne une couleur un peu particulière. C'est
ok, donc météo à 13h pour cet après-midi. Des pluies soutenues entre le sud-ouest et le nord du pays avec des abondantes chutes de neige dans les Pyrénées. Ces pluies gagneront l'est et le sud au cours de la soirée alors que la Bretagne, la Normandie et la Vendée auront les meilleures chances de soleil. Les températures seront comprises entre 8 et 19 du Loiret au Roussillon. Il fera 10 à Paris, 11 à Rennes, 16 à Lyon. Et 17 à Marseille.
Eh ben voilà, ça fait une corde de plus à votre arc.
Arceau.
Mister Météo. Comme chaque semaine, nous partons maintenant en mer.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Nous suivons l'aventure du bateau Triana dans l'Ocean Globe Race. L'équipage est en escale en Uruguay avant de repartir pour la dernière étape. Et nous sommes avec son skipper Jean Dartuis. Bonjour Jean. Et Jean, vous êtes premier.
Oui, double bonne nouvelle, effectivement, on est premier au classement général, j'ose pas y croire, alors il faut aussi rester bien calme et concentré parce qu'il reste une étape qui est une étape évidemment sur le papier moins difficile que les deux étapes des mers du Sud, de l'océan Indien et du Pacifique, puisqu'on a la remontée de l'Atlantique maintenant à faire, mais c'est une étape qui est longue, qui est complexe sur le plan de la navigation parce qu'il y a beaucoup de navigation au près, c'est-à-dire face au vent, rien n'est joué, et maintenant on s'est pris au jeu et on espère qu'on va aller au bout.
Bah c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'au départ, vous partiez pour l'aventure, et puis maintenant, bah, y a l'aspect sportif qui peut jouer.
Exactement, on s'est pris au jeu. Y a beaucoup de leçons extraordinaires d'apprentissage de la mer, bien sûr, de la navigation et de soi-même. Et donc, dans cette étape, je dirais que c'est une histoire de volonté, finalement, et d'amélioration étape par étape. Comment, dans quelles circonstances le bateau marchait mieux. On a appris à vivre ensemble dans un espace très, très restreint où, comme vous savez, c'est très inconfortable. On bouffe mal, on dort mal. Bon. Donc, c'est un apprentissage apprentissage pendant des mois et des mois de comment vivre ensemble, comment être performant. C'est une aventure formidable pour nous tous.
Bon, alors là, vous profitez de quelques jours de repos avant de repartir. C'est quand ? Vous repartez quand d'Uruguay ?
Le départ est le 5 mars pour Southampton en Angleterre. Une étape qu'on prévoit de faire en, je dirais, entre 40 et 45 jours pour la dernière ligne droite et la ligne finale de la Whitbread. Donc c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. Donc je souhaite vraiment à tout le monde de faire sa Whitbread, son Cap Horn, son challenge personnel, parce qu'on a eu beaucoup de chance de faire ça.
Merci beaucoup en tout cas Jean d'avoir été avec nous ce matin encore.
Merci Nathalie, à bientôt et rendez-vous à Southampton pour la ligne finale.
Ben oui, évidemment, on sera là. Merci beaucoup Jean.
À mon contact, le lieu pas presque combat. C'est pas pour passer par la coupe. Qu'est-ce que c'est grave, le mal. C'est pour fumer les bêtises que la rubane de système. C'est ça que j'aime et qui m'a même moi et plus mon mère.
Vous pouvez y aller, hein, Joey.
J'y mets tellement de cœur que j'ai pas besoin d'y voir, non.
Bac dans les bacs, c'est le titre d'NTM que vous avez souhaité écouter.
Ouais, on rentrait sur scène avec ça, et c'est-à-dire que ce morceau durait 2 minutes et on avait l'impression d'avoir joué 1h30 en le faisant. Tac. Et puis surtout, c'était le troisième et dernier opus, et on nous attendait tous, tac, on est arrivé avec ça. Enfin voilà, c'est à chaque fois que je l'entends, j'ai des réminiscences, de très bonnes réminiscences, voilà, de ce qu'était NTM.
Eh ben on va parler de NTM entre autres, mais de la musique aussi, de la place de la musique. Et puis comme chaque samedi, notre chroniqueur est avec nous. Aujourd'hui, c'est Arthur Pereira. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Alors, Joey Starr, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. On a l'impression qu'il a eu 1000 vies, on le comprend bien. Mais le public, lui, qu'est-ce qu'il en retient ? Comment il voit Joey Starr ?
Eh bien, je n'ai même pas besoin de prononcer votre nom de scène, Joey Starr. Au pied de la Grande Arche, dans le quartier de la Défense, j'arrête Thomas, je sors mon téléphone et lui montre une photo de vous.
Joey Starr, gros personnage, musique, cinéma maintenant, grosse intervention en télé, un personnage charismatique. Ses interventions parfois sont jugées trop franches, trop placées, trop politisées peut-être aussi. Moi, c'est un personnage que j'aime bien personnellement.
Kader lui termine sa cigarette sous la pluie. Pressé, il ne lève pas la tête jusqu'au moment où il voit votre visage sur mon écran.
Le rap, à sa création, que j'ai vécu moi aussi.
Si vous deviez citer un son de Joey Starr, de NTM, ça serait lequel ?
Poston Gun, c'est le top des tops. Joey, c'est le Nirvana, comme on dit.
Le Nirvana, et rien que ça. Alors, des fans, vous en avez, mais bon, vous le savez mieux que moi, on ne fait pas toujours l'unanimité.
Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément, pour être tout à fait franc. Mais il faut reconnaître le talent et NTM et tous ces groupes-là de ces années-là, du rap français.
Rappeur, mais pas que, acteur aussi. On retient le film Police dans lequel vous jouez et plus récemment dans une série télévisée. D'ailleurs, Nadia vous préfère dans ce rôle.
Je crois que c'est un prof, un truc comme ça.
Le remplaçant.
Ouais, voilà. Bah, c'est nettement mieux, je crois.
Je lui ai même conseillé d'aller voir votre dernière réalisation, cette petite musique que personne n'entend. Il ne s'agit pas d'un morceau, mais d'une pièce de théâtre dont vous êtes le metteur en scène. Mais en tant que fondateur du rap français, impossible de ne pas terminer cette chronique en musique.
Laisse-moi zouzoum, dance dans ma Benz.
Bah oui, là on a le vrai. Est-ce que ça vous importe le regard des gens, le regard que les gens posent sur vous, Joey Starr ?
Bah moi je fais d'abord pour moi en fait, par exemple pour notre création théâtre avec Clarisse. Il est vrai que je lui ai dit, tu sais qu'on va se faire déglinguer. Enfin, sans moi, tu pourrais faire des choses plus. Enfin, voilà. Mais en fait, non, mais je fais d'abord. Enfin, je suis un peu rentré dans l'art comme ça. Si on s'appelait Nique ta mère, c'est parce qu'on était un microcosme et qu'on faisait des choses pour nous. Et puis, tu décides pas de faire carrière quand tu t'appelles Nique ta mère, en fait. Voilà, c'est vraiment que tu fais les choses pour toi. À l'époque, c'était surtout les hormones qui nous portait. Donc la magie a toujours opéré comme ça. Je ne vis pas dans l'œil de l'autre et je ne m'en porte pas plus mal. Et puis, ça doit être dur de faire l'unanimité. Donc ça ne m'intéresse pas. La perfection n'étant pas de ce bas monde, j'y ai ma place, heureusement.
Vous avez été précurseur dans les années 90. Vous avez importé le rap en France. Enfin, vous faites partie de ceux qui l'avaient importé. Est-ce que vous aviez énormément de choses à revendiquer hier ? Est-ce que vous avez toujours autant de choses à revendiquer aujourd'hui ?
Ouais, comment ? J'ai eu des enfants, je suis un chef de tribu, donc j'ai encore plein. Ouais. Bah, je pense que
Oui, la pièce de théâtre dont on parle revendique des choses.
Évidemment. Non, mais toutes les choses que je sur lesquelles je suis en ce moment, là, j'ai une série qui sort, qui s'appelle Machine. Ça parle en même temps de syndicalisme, de marxisme, entre autres. Le remplaçant, voilà, aussi. Enfin, tout s'inscrit. Pour moi, tout. C'est pas, je cherche à faire des choses qui ont du sens. C'est évident pour moi de faire des choses qui vont quelque part et qui disent quelque chose et qui ne sont pas juste là pour me faire gonfler les chevilles, quoi. Voilà, enfin, c'est comme ça, mon instinct fonctionne comme ça, en fait. C'est pas moi qui décide d'eux, c'est mon corps, et je le laisse parler, quoi.
Et la musique et le rap dans votre vie aujourd'hui, c'est fini le rap aujourd'hui?
Bah, en fait, là, j'étais sur Black Label et je fais une pause pour aller faire des sound systems. C'est-à-dire qu'en fait, je pars avec des DJ et pendant 2 heures, j'anime. Je chante si j'en ai envie, mais c'est-à-dire que je fais le MC, je fais du MCing, quoi. Donc, c'est, voilà. Ouais, ça me manque parce que j'ai envie de faire du live. Heureusement que j'ai aussi le théâtre qui n'est pas du tout le même exercice, mais je pense que c'est plutôt le. Je sais pas si c'est le rap qui me manque, mais. Le live, en tout cas, faire des séries, faire des films, c'est une bonne chose, mais j'adore le côté immédiat, instantané, de prendre un micro et monter sur scène, tac. Donc j'essaye.
Et puis, éventuellement improviser d'ailleurs.
Oui, voilà, ouais. Et donc j'essaye de temps en temps de faire des titres, mais pas pour vendre de la musique, mais pour alimenter les sessions live que je fais, ouais.
On vous a entendu avec Sofiane Pamar, le pianiste. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens avec lesquels vous aimeriez collaborer de cette manière?
Bah, j'ai aussi collaboré avec Ibrahim Malouf, pareil quoi, c'était sur des lectures. Ouais, j'ai encore des je suis en hyperactif, donc bien sûr, j'essaie de pas trop écouter mon hyperactivité, mais plutôt mon instinct. Mais sinon, ouais, j'ai envie de faire plein de choses, ouais.
NTM, c'est fini à tout jamais?
Ouais, il semblerait, ouais. Ouais, ouais, c'était en 2018.
Donc on peut vous entendre chanter à nouveau, c'est possible, ça c'est pas...
Ouais, ouais, j'ai fait des choses avec un artiste qui s'appelle Touko Gadem, qui était anciennement Nati, voilà, qui a grandi et qui lui est devenu une entité musicale assez costaude, donc ça m'arrive de faire des collabs avec lui, enfin voilà, entre autres.
Bon. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu de Sofiane Pamar. Ça n'était pas forcément dans vos choix musicaux, mais je suis sûre que vous allez approuver. Avant de vous retrouver pour parler d'une autre facette de votre carrière, le cinéma. Nous sommes toujours en compagnie de Joey Star, mais aussi de l'actrice écrivaine Clarisse Fontaine. C'est le journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL, avec Joey Star et Nathalie Renaud.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Joey Star
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Star, est-ce que vous reconnaissez cette musique? C'est la musique d'Interstellar.
Ah.
Christopher Nolan. Mm-hmm. Vous l'avez mis dans vos choix.
Ouais.
Pour quelle raison?
Bah parce que j'aime la science-fiction. Je trouve que toutes les cases sont remplies, quoi. C'est un film qui émeut. On a la parabole de ce film-là, alors que c'est un film de SF, anticipation, enfin on est entre les deux. Je trouve que voilà, il y a tout ce qui, enfin c'est le genre de film que j'aimerais voir plus souvent, quoi. La science-fiction a toujours une lecture de la science-fiction de choses un peu légères, ou et là il y a il y a plein de choses. Il y a l'abandon. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle aussi comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans ce film qui m'ont cueilli. Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, j'ai eu la boule. J'ai même miaulé, je crois, la première fois. Donc voilà, quoi.
Ça fait quoi quand Joey Star miaule?
Bah, je ne suis qu'un homme, donc comme tous les humains, quoi. C'est humide. Voilà.
Le cinéma, vous avez été révélé au cinéma, vraiment, enfin en tout cas aux yeux du grand public, par ce film Police.
D'avoir prendre des photos clic-clic-clac, là, juste quand il y a des mômes qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça.
Vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas du tout le même exercice que la scène et le live. Le cinéma, c'est finalement beaucoup plus cadré, mais vous y prenez du plaisir?
Bah oui, heureusement. Ouais, j'ai découvert que j'arrivais à m'abandonner sur des rôles. Et puis, après,
c'est pas le même exercice parce qu'on est plus dans la précision sur le cinéma. Quand Clarisse, quand on dit il faut y aller, elle part pendant 1h20 toute seule, tac. Moi, l'exercice s'approche de la performance et c'est pour ça que j'aime le théâtre. C'est ce qui m'a parlé tout de suite. Au départ, j'ai rencontré le théâtre en faisant des lectures et puis un jour, David Bobet m'a dit tiens, j'ai une pièce de 3 heures à te proposer où tu vas avoir le premier rôle et je vais être 3 heures sur scène. Je lui dis, mais je suis incapable de faire ça. Et en fait, oui, parce que j'avais peur. Ne connaissant pas le truc, je voyais ça comme tous les soirs faire la même chose. Quand on monte sur scène pour faire de la musique, parfois, la musique peut faire 70% du taf. Enfin, ça aussi, quoi. Voilà. Et donc, on n'a pas l'impression de faire la même chose. Et ben, au théâtre, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a des partenaires. Vivant, on a, en fait. Voilà, c'est du spectacle vivant. Donc en fait, on s'inscrit pas dans une routine, quoi.
Et aujourd'hui, donc vous avez ce spectacle Black Label, c'est autour des auteurs et des poètes noirs,
ouais.
Mis en scène par David Bobet. Là encore, il y a de l'engagement.
Bah ouais, en fait, c'est quelque chose qui parle de comment dire, de colonisation, d'esclavagisme, mais surtout qui raconte le tissu social que ça a créé. De nos jours, enfin jusqu'où ça nous emmène jusqu'à de nos jours, ça commence en 1222 au Mali où des chasseurs-cueilleurs ont écrit un truc qui ressemble étrangement à la charte des droits de l'homme. Alors je le dis bien, on était en 1222 et ça arrive jusqu'à de nos jours en passant par James Baldwin, Eva Doumbia, enfin il y a des gens encore vivants, des gens que j'ai rencontrés, il y a Lionel Trouillot qui est haïtien par exemple aussi, enfin voilà. Donc on balaye le plus large possible parce que il y a beaucoup de gens.
Et vous, enfant de parents martiniquais, ça vous parle directement dans votre chair ?
Ah bah moi, à travers ce spectacle, je renoue avec plein de choses parce que je le fais aussi avec une contrebassiste qui s'appelle Célène Saint-Aimé, qui est martiniquaise et qui chante en créole. Voilà, enfin, je renoue avec plein de choses. Moi, mon père m'a fait une coupure sur toute la créolité de notre culture. Et donc voilà, donc ça me permet de renouer. Et puis, c'est un peu un cours d'histoire augmenté là, que je fais et que je me fais à moi-même aussi, quoi. Donc j'adore ça, ouais.
Au cinéma, vous avez des projets ?
Ouais, j'ai des choses qui sortent là, mais oui, je suis en... il y a moins de doudingues qui convergent vers moi pour le cinéma, mais je tourne quand même, quoi. Là, j'ai deux séries qui sortent cette année, et puis j'ai des projets en préparation, voilà.
Et puis il y a la deuxième saison du Remplaçant sur TF1 qui
c'est
va
ça.
Bientôt arriver.
Ouais.
Ça, c'est marrant quand même, vous qui avez incarné la rébellion dans les années 90, de vous voir être le porte-drapeau d'une série de TF1. Là, vraiment, on peut dire que vous êtes mainstream aujourd'hui.
Ah bah, je rigole doucement, surtout quand on sait que c'est moi qui suis... l'idée originale vient de moi en plus, enfin tout ça, parce que quand ils m'ont approché au départ, ils voulaient me faire faire un thriller, enfin des choses comme ils ont l'habitude de faire, je leur ai posé ça en me disant je vais pas les revoir. Enfin, un type, j'avais réagi à une actualité concernant l'éducation nationale qui recrutait parce qu'ils avaient...
Il y a des manques.
Il y a des manques, donc ils recrutaient des gens sous couvert, t'as le bac, un cursus, voilà, sous couvert d'un stage de quelques mois. Donc je me disais, c'est intéressant, ça veut dire que n'importe qui peut... Enfin voilà quoi, ils sont vraiment en chien et donc de là je leur sors le truc en disant ouais ben ça pourrait être n'importe qui, un type ok il a son bac hein, mais il sort de prison, ils l'ont pas découvert, enfin je sais pas, ça, tu vois, on extrapole le truc comme on veut. Et je pensais pas les revoir et en fait 3 mois plus tard ils m'ont dit ouais on a monté un pôle de scénariste, en fait c'est super et machin et nanana, et puis on est parti, puis ça a cartonné dès la donc moi-même je tombe des nues, voilà quoi. Donc ça me fait me dire, c'est ce que je dis aussi à mes enfants, même aux jeunes qui viennent me voir, que quand t'as quelque chose en tête, faut pas lâcher, quoi. La vie te propose des switches, parfois il faut être au rendez-vous à ce moment-là, quoi. Et voilà, j'ai des rendez-vous comme ça.
Ouais, c'est marrant. L'un de vos choix musicaux.
Quel est Zanajango ?
Je vous vois sourire.
Ouais, non, parce que je vois Clarisse se trémousser, voilà.
Clarisse Fontaine, qui est toujours avec nous, qui écoute religieusement ce que vous dites, c'est Skrillex.
Ouais, Skrillex, Rumble. Ouais, bah ça c'est pas très vieux, c'est voilà, je me ressource avec ce genre de choses.
qui envoie et qui dépote à mort. Voilà.
Se ressourcer, bah justement, tiens, on va en parler. Comment quelqu'un qui a incarné à ce point la jeunesse en rupture vieillit-il? Je vous poserai la question dans un instant, Joey Star. Okay. À tout de suite.
De Joey Star avec Nathalie Renoux sur RT. Le journal inattendu de Joey Star
avec Nathalie Renoux sur RTL.
C'est en me disant, j'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à mener avec la régie.
Laisse pas traîner ton fils. Vous avez incarné, Joey Star, la rébellion. Vous étiez l'indomptable, le porte-voix de la colère de la jeunesse des quartiers dans les années 90. Comment est-ce qu'on vieillit? Comment est-ce qu'on accepte de vieillir quand on a été ce personnage-là, incarnant à ce point la jeunesse en colère?
Alors déjà, je ne sais pas si j'ai accepté de vieillir, parce qu'il y a toujours cette petite faille en moi d'un prépubère, du prépubère que j'ai été, et que je ne combats pas. Je ne sais pas, moi, comment on accepte de... En fait, je pense que mon plus grand défi, c'est de transmettre la vigilance à mes enfants par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je sais du système sur l'acceptation, sur le refus, sur enfin tout ça. Donc d'essayer de faire un leg qui ne les crispe pas trop par rapport à leur arrivée dans le monde du travail ou autre.
Vous avez trois fils, hein, c'est ça?
Ouais, j'ai trois garçons, ouais. Je sais pas, c'est dur d'être protagoniste et spectateur, donc de se décrire. Mais j'ai toujours je suis toujours très motivé sur tout ce que je fais là, et ça me vient de justement du fait que j'ai été je suis vraiment tombé. Je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais jeune, quoi. Donc toutes les choses me sont arrivées comme ça, pas toutes cuites, mais. Mais je me suis jeté à corps perdu dans tout ce que j'ai fait, donc voilà, et je continue à être comme ça, donc je saurais pas comment me décrire.
J'ai une expression.
J'ai autre chose à faire, en fait.
Voilà. Ouais, mais c'est votre journal inattendu.
Même j'entends bien.
Forcément, je parle de vous. Ouais. Si je vous dis rentrer dans le rang, est-ce que ça vous parle?
Ouais, ça me parle. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je pense pas être rentré dans le rang, en fait. Comme je disais tout à l'heure, je me suis fait happer par un système parce que j'ai encore envie de dire, envie de faire. Je sais que je voyage beaucoup par le biais de rencontres que je fais. La plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui sont plus jeunes que moi. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Je suis toujours dans mon diktat au niveau de ma lecture des choses et dans mon contact avec les gens. Mais je m'adapte beaucoup. Donc ouais, je suis rentré dans le rang pour ça, mais je m'adapte à mes contemporains, peut-être pas au système, mais plutôt aux gens avec qui j'ai des atomes crochus par le biais du boulot, par le biais de rencontres comme ça, sans forcément qu'il y ait le taf derrière, quoi.
On parle de la jeunesse, vous dites que vous travaillez avec des gens plus jeunes. Clarisse Fontaine, vous êtes toujours avec nous, on parlait de votre pièce...
Clarisse Fontaine n'a que 16 ans.
Non, c'est pas vrai. vous jouez cette pièce que Joey Star met en scène qui s'appelle « Cette petite musique que personne n'entend » et qui parle des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Est-ce que cette pièce, par exemple, vous la présentez à des jeunes, histoire de faire œuvre de pédagogie?
Oui, ça nous arrive. D'aller à la rencontre de lycéens, c'est à partir de 15 ans, et d'expliquer, d'échanger en amont, de faire la représentation, et aussi ensuite, ça leur permet d'avoir un débat entre eux ou avec nous, ça nous est arrivé. Ouais. L'idée, c'est on a vraiment un panel très large de spectateurs, vraiment de 15 à 90, j'ai envie de dire. Ça s'adresse, ça parle à tout le monde. Et il y a aussi des parents qui emmènent leurs enfants, encore hier soir justement, qui m'ont dit « oui, voilà, j'ai des garçons, j'ai envie de leur montrer aussi ». Et oui, c'est une pièce qui est éducative, mais qui est aussi... on ne s'ennuie pas, hein, c'est quelque chose...
Non, je confirme, j'étais hier soir au Théâtre des Mathurins, on ne s'ennuie pas.
Voilà.
On rit même parfois, même si la thématique est
mais c'est
dure.
Surtout ce qui est étonnant, c'est que on a réussi, entre guillemets, à en faire un spectacle, en fait. C'est ce qui m'étonne encore. Hier, ça faisait un moment que je n'avais pas vu la pièce. Hier, j'y suis allé, je me suis fait cueillir par la dame, et surtout par le fait que, quand j'entendais des rires dans la salle, le sujet est quand même très lourd, très épais, et qu'on arrive quand même à... temps en temps à
respirer.
À respirer là-dessus. Et puis, voilà, quoi. Et puis surtout, là, il y a la performance, quoi. Qui,
ah, bah oui.
Qui aussi,
beaucoup d'énergie. Ouais. Vos fils, ils l'ont vu ?
J'en ai un qui l'a vu, oui. Ouais. Ouais.
Allez, j'ai une dernière question. Quel père êtes-vous, Joey Star ?
Ah, ben, c'est à vous que vous demandez ça, mais. non, mais quel père je suis ? Aimant au possible, la mère me disait que je suis très spartiate avec eux, et qui me disait, mais elle me disait, mais c'est pas tes potes. Je disais, t'inquiète, ils savent qu'on n'est pas potes. voilà. Mais non, comme je suis séparé des deux mamans, j'essaye d'être là au possible. Et surtout, ouais, non, j'en ai un qui a vu quasiment toutes mes créations de théâtre, enfin toutes les fois où je suis monté, et qui justement au départ se disait. Il fait du théâtre, enfin on en a parlé, il me disait, mais je pense qu'il doit avoir l'impression que j'ai peur de rien, en fait. On me propose des choses et j'y vais, mais je lui dis, c'est monter sur une scène, c'est déjà mon truc, et puis c'est pas, il y a pire dans la vie, hein. Je suis pas au bord d'une falaise, hein. Et puis sortir de sa zone de confort, c'est...
Bah, c'est un message c'est... aussi à faire passer.
Voilà, ça aussi, et puis ça me donne l'impression, tout à l'heure, vous me demandiez comment j'étais par rapport au système, tout ça, mais en fait... sortir de ma zone de confort me donne l'impression d'être libre, justement, et de ne pas être accroché à une image. On me disait la dernière fois, dans Machine, je fais du vélo, je suis cycliste. On me disait, ouais, vous voir, ça désacralise le truc, mais j'adore désacraliser les choses, ça me plaît, quoi, donc voilà.
Merci beaucoup d'avoir été ce matin, ce midi, dans ce journal inattendu en direct sur RTL. Merci beaucoup, Clarisse Fontaine.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre pièce, cette petite musique que personne n'entend, c'est...